Depuis la gare, il parcourut à pied sous une pluie battante les 6 kilomètres qui le séparaient de l'emplacement du cimetière militaire. Il marchait au milieu de la route, ses grosses galoches écrasaient rageusement les flaques d'eau et il ne consentit aucun écart pour laisser passer les automobiles qu'il klaxonnait comme s'il ne les entendait pas. Elles durent, pour le dépasser, mettre 2 roues sur le bas-côté. C'est une curieuse figure qui se planta devant la grille avec un air menaçant, une grande carcasse aux poings serrés dans les poches de son manteau qui, bien que la pluie se soit arrêtée entre-temps, était gorgée d'eau. Mais il n'y eut personne pour le voir, midi venait de sonner, le chantier était fermé. Sur le grillage, un panneau portant une annonce du service des sépultures listait, à l'intention des familles et des proches, la litanie des objets retrouvés sur des corps non identifiés et qu'on pouvait aller voir en mairie. Une photo de jeune femme, une pipe, un talon de mandat, des initiales relevées sur un sous-vêtement, une blague à tabac en cuir, un briquet, une paire de lunettes rondes, une lettre commençant par « ma chérie » mais non signée, un inventaire dérisoire et tragique. Merlin fut frappé par la modestie de toutes ces reliques. Que des soldats pauvres, c'était à ne pas croire. Il baissa les yeux sur la chaîne de clôture, leva la jambe et abattit sur le petit cadenas un coup de talon à assommer un taureau, puis entra dans le chantier et alla défoncer d'un nouveau coup de pied la porte en bois de la baraque de l'administration. Seul à manger sur place, sous une bâche gonflée par le vent, il y avait une douzaine d'Arabes. Ils virent, de loin, Merlin fracasser la grille d'entrée puis la porte du bureau, mais ils se gardèrent bien de se lever, d'intervenir. Le physique de cet homme, son assurance ne leur disait rien qui vaille. Ils continuèrent de mâcher leur pain. Ce qu'on appelait ici le carré de Pontaville était un champ qui n'avait rien de carré, situé en bordure de bois et où l'on estimait qu'environ 600 soldats avaient été enterrés. Merlin fouilla les armoires à la recherche des registres dans lesquels chaque opération devait être consignée. En compulsant les comptes rendus journaliers, il jetait de rapides coups d'œil par la fenêtre. Les exhumations avaient commencé 2 mois plus tôt. Ce qu'il voyait, c'était un champ truffé de fosses et de monticules de terre, de bâches, de planches, de brouettes, d'appentis provisoires où l'on stockait le matériel. Administrativement, tout semblait conforme. Il ne trouverait pas ici, comme à Chazières-Malmont, cet écœurant laissé-aller, ces cercueils de déchets qui ressemblaient à des poubelles d'écarisseurs qu'il était parvenu à dénicher, dissimulés dans un lot de cercueils neufs et prêts à servir. Généralement, après avoir vérifié l'existence des registres, Merlin entamait son inspection par une déambulation. Il se fiait à son intuition, soulevait une bâche ici, contrôlait une plaque d'identification ailleurs, après quoi il se lançait véritablement. Sa tâche le contraignait ensuite à d'incessants allers-retours, des registres aux allées du cimetière, mais, grâce à son investissement personnel dans ce travail, il avait rapidement acquis un sixième sens, lui permettant de débusquer l'indice le plus ténu, masquant une fraude, une irrégularité, le détail conduisant à une anomalie. C'était certainement la seule mission ministérielle obligeant un fonctionnaire à déterrer des cercueils, voire à exhumer des cadavres, mais, pour vérifier, pas moyen de faire autrement. Le physique massif de Merlin s'y prêtait d'ailleurs bien, ses énormes galoches vous enfonçaient la pelle de 30 cm d'un seul coup dans le sol, ses grandes paluches maniaient la pioche comme une fourchette. Après sa première prise de contact avec le terrain, Merlin commença ses vérifications détaillées. Il était midi et demi. À 14 heures, il se trouvait à l'extrémité nord du cimetière, debout devant une pile de cercueils fermés entassés les uns sur les autres, lorsque le chef de chantier, un certain Sauveur Bénichou, la cinquantaine mauve d'alcoolisme et sèche comme un sarment de vigne, s'approcha de lui, accompagné de deux ouvriers, sans doute des contremaîtres. Tout ce petit monde était furibard, mouvement de menton, voix forte, impérative, le chantier est interdit au public, on ne peut pas laisser entrer les gens comme ça, il faut quitter immédiatement les lieux. Et comme Merlin ne les regardait même pas, on passa à la tonalité supérieure. En cas d'insistance, on va aller prévenir la gendarmerie parce que, imaginez-vous, c'est un site placé sous la protection du gouvernement. « C'est moi !» coupa Merlin en se retournant vers les trois hommes. Et, dans le silence qui suivit, il ajouta « Le gouvernement ici, c'est moi !» Il plongea la main dans sa poche de pantalon et en ressortit un papier froissé qui n'avait pas tellement l'air d'une accréditation, mais comme lui-même n'avait pas non plus l'air d'un envoyé du ministère, on ne savait pas quoi penser. Sa grande carcasse, ses vieux vêtements fripés, tachés, ses colossales godasses, tout impressionnait. On trouva la situation suspecte, mais on n'osa pas s'opposer. Merlin se contenta de détailler les trois hommes, le sauveur qui exhalait une épouvantable odeur d'eau-de-vie de prune, et ses deux acolytes. Le premier, dont le visage en lame de couteau était mangé par une moustache trop grosse pour lui et jaune de tabac, tapotait ses poches de poitrine pour se donner une contenance. Le second, un arabe qui portait encore ses chaussures, son pantalon et son calot de caporal d'infanterie, se tenait raide, comme pour une revue, dans la position d'un homme qui veut convaincre l'environnement de l'importance de sa fonction. Fit Merlin avec son dentier en renfournant son papier dans sa poche. Puis il désigna l'empilement de cercueils et « Imaginez-vous, reprit-il, que le gouvernement se pose des questions. » Le contremaître arabe se raidit un peu plus encore, son compagnon à moustache sortit une cigarette, il ne sortit pas le paquet, juste la cigarette, comme un homme qui n'a pas envie de partager, qui en a marre des tapeurs. Tout, chez lui, dénotait la petitesse et l'avarice. « Par exemple, dit Merlin en exhibant soudain trois fiches d'identité, le gouvernement se demande à quel cercueil correspondent ces gaillards-là. » Les fiches, dans les grosses pognes de Merlin, ne semblaient pas plus grandes que des timbres-poste. La question plongea toute l'équipe dans le plus grand embarras. Après avoir déterré une allée entière de soldats, on obtenait, d'un côté, une rangée de cercueils, de l'autre, une série de fiches d'identité, théoriquement dans le même ordre. Mais il suffisait que l'une de ces fiches soit mal classée ou absente pour que toute la rangée soit décalée et que chaque cercueil hérite d'une fiche sans aucun rapport avec son contenu. Et si Merlin avait, entre les mains, trois fiches ne correspondant à aucun cercueil, c'est justement que tout avait été décalé. Il hocha la tête et considéra la partie du cimetière déjà retournée. 237 soldats avaient été exhumés et transportés 80 kilomètres plus loin. Paul était dans le cercueil de Jules, Félicien dans celui d'Isidore et ainsi de suite, jusqu'à 237. Et il était maintenant impossible de savoir qui était qui. « À qui elles correspondent, ces fiches ?» balbutia Sauveur Bénichou en regardant autour de lui comme s'il était soudain désorienté. « Voyons voir. » Une idée lui traversa la tête. « Eh ben, assura-t-il, on allait justement s'en occuper. » Il se tourna vers son équipe qui semblait avoir soudainement rapetissé. « Hein, les gars ?» Personne ne comprit ce qu'il voulait dire, mais personne n'eut le loisir d'y réfléchir. « Ha ha !» hurla Merlin. « Vous le prenez pour un con ?»« Qui ça ?» demanda Bénichou. « Le gouvernement !» Il avait l'air d'un dément et Bénichou hésita à lui redemander son accréditation. « Alors, ils sont où nos trois lascars, hein ? Et les trois bons hommes qui vont vous rester sur les bras là, à la fin du boulot ? Vous allez les appeler comment ?» Bénichou se lança alors dans une explication technique laborieuse, à savoir qu'on avait considéré plus sûr de regrouper la rédaction des fiches après la constitution d'une rangée entière de cercueils afin de les consigner sur le registre, parce que si on rédigeait la fiche « connerie », le coupa Merlin. Bénichou, qui n'y croyait pas lui-même, se contenta de baisser la tête. Son adjoint tapota sa poche de poitrine. Dans le silence qui suivit, Merlin eut cette curieuse vision d'une immense étendue de tombes militaires. Des familles, ici et là, se recueillaient, bras pendants et mains jointes, et Merlin était le seul à voir, comme par transparence, les dépouilles palpiter sous la terre, et à entendre les soldats hurler leur nom d'une voix déchirante. Sur les dégâts déjà commis, c'était irréparable, ces soldats étaient définitivement perdus. Sous les croix identifiées dormaient des morts anonymes. La seule chose à faire maintenant, c'était de repartir d'un bon pied. Merlin réorganisa le travail, écrivit des consignes en gros caractères, tout cela d'un ton autoritaire et cassant. « Venez ici, vous, écoutez-moi bien !» Il menaçait de poursuites si la besogne était mal faite, de contraventions, de limogeage. Il terrorisait. Quand il s'éloignait, on l'entendait distinctement. « Les cons !» Dès qu'il aurait le dos tourné, tout recommencerait. On n'en finirait jamais. Ce constat, loin de le décourager, décuplait sa hargne. « Venez ici, vous allez, grouillez-vous » C'était à la moustache jaune de tabac qu'il s'adressait. Un homme d'une cinquantaine d'années, au visage tellement étroit que les yeux semblaient posés au-dessus des joues, de chaque côté comme chez les poissons. Figé à un mètre de Merlin, il réprima son geste de tapoter sa poche, préféra sortir une nouvelle cigarette. Merlin, qui s'apprêtait à parler, s'interrompit un long moment. Il ressemblait à quelqu'un qui cherche un mot, qui l'a sur le bout de la langue, un truc très agaçant. Le contremaître moustachu ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps d'articuler un son. Merlin venait de lui allonger une gifle retentissante. Sur cette joue plate, la baffe résonna comme un coup de cloche. L'homme recula d'un pas, tous les regards s'étaient portés vers eux. Bénichou, qui sortait de la cabane où il cachait son remontant une bouteille de marc de Bourgogne, s'égosilla, mais tous les ouvriers du chantier étaient déjà en mouvement. L'homme à la moustache, sidéré, se tenait la joue. Merlin fut vite encerclé d'une véritable meute et, si ce n'avait été son âge, son étonnant physique, l'ascendant qu'il avait pris depuis le début de l'inspection, ses battoirs énormes, ses godasses monstrueuses, il aurait pu s'inquiéter pour son sort. Au lieu de quoi, il écarta tout le monde avec assurance, fit un pas, se rapprocha de sa victime, fouilla sa poche de poitrine en criant « et il en sortit, le poing fermé. De l'autre main, il attrapa l'homme par le cou, il voulait l'étrangler, c'était visible. « Hola !» hurla Bénichou qui venait d'arriver en titubant. Sans lâcher le cou de l'homme qui commençait à changer de couleur, Merlin tendit le poing fermé vers le chef de chantier, puis l'ouvrit. Une gourmette en or apparut avec une petite plaque retournée du mauvais côté. Merlin relâcha sa proie qui se mit à tousser, à en vomir ses poumons, et il se tourna vers Bénichou. « Il s'appelle comment, votre gars ?» demanda Merlin. « Son prénom ?»« Sauveur Bénichou, vaincu et désarmé, adressa à son contremaître un regard navré. « Alcide, murmura-t-il à regret. Ce fut à peine audible, mais ça n'avait aucune importance. Merlin retourna la gourmette, comme s'il s'était agi d'une pièce de monnaie qu'on avait jouée à pile ou face. Sur la plaque, un nom gravé, Roger. »